Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 janvier 2020 et nous allons rentrer quelque peu dans une paracha extrêmement importante. C'est une des parachas les plus fondamentales, si l'on peut parler ainsi, de la Torah, Shemot. Alors, vous savez que le nom de chaque paracha correspond à l'idée centrale, à l'épine dorsale qui soutient toute cette paracha. Voilà les Bnei Israël qui sont rentrés en Égypte avec leur père Yaakov, ils étaient 70, et Yosef était en Égypte. Alors, ce qui est ici extrêmement intéressant, c'est que la paracha va parler des fils de Yaakov selon leur nom, parce qu'ils étaient chefs de tribu. On ne parle pas de leur famille ici, on ne parle pas des êtres qui leur étaient, si vous voulez, reliés. On parle des fils, des noms. Alors, notre maître, le Rav de mémoire béni, Ashkenazi, Manitou, dans son livre Kimitzion, avait fait un article le 13 janvier 1996, quelques mois d'ailleurs avant son départ de ce monde. Le Rav Manitou avait bien précisé un point fondamental. Il faut ne pas mélanger les chiffres, ce qu'on appelle les misparim en hébreu, des noms, qu'on appelle les shemot. Les misparim, ce sont les statistiques. Par exemple, ils sont partis 70. Ils étaient 12. Ce sont des chiffres froids, des chiffres qui permettent tout simplement de compter arithmétiquement, statistiquement les êtres, mais ce sont des chiffres impersonnels, j'allais dire des chiffres neutres. Et ce monstre froid qu'on appelle des statistiques, et je sais de quoi je parle puisque j'ai une formation d'économiste et statisticien, c'est un monstre qui, lorsqu'il n'est pas relié au nom, peut emmener l'humanité à une dépersonnalisation de la vérité, à une dépersonnalisation de la réalité, dans un monde qui est un monde d'obscurité qui peut devenir total. Pourquoi? Parce que la Torah parle de mispar shemot. Mispar shemot. Mispar, c'est-à-dire les comptes, les chiffres, la racine de mispar en hébreu c'est safer. Safer ça veut dire compter, l'ispor. Et cette racine-là, 340 en guématria, est directement liée au shem, qu'on appelle le nom en français, et qui est de gamatria aussi 340. C'est-à-dire que le but, c'est de relier les nombres au shem. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un shem? Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Un nom, c'est en fait très très compliqué à comprendre. D'abord, je vais essayer de le résumer au maximum. Un nom est lié à la personnalité propre de chacun. un nom est lié à un système de valeurs de chacun. Un nom est lié aux qualités et aux défauts moraux de chacun. Un nom est la racine de la liberté. Le but de cette formation de la personnalité de chacun et d'une collectivité et d'une nation et d'un être universel, c'est tout simplement d'unifier l'intériorité de l'être. Le nom permet à l'être de se relier à son patrimoine, non seulement génétique, mais aussi son patrimoine ancestral. À l'intérieur de l'être, dans cette intériorité de plus en plus profonde, il y a la fonction, qui peut être évidemment, tout au long de la vie, subdivisée en des fonctions. Le but, c'est d'arriver à unifier les fonctions à la personnalité, au caractère, et cela donne ce qu'on appelle le nom. Et le Rav, Zichrono Libracha, Manitou, cite le Rav Yehuda Alevi, le Rav Alevi dans le Kuzari, explique que derrière le nom se cache Hachem, se cache Dieu. Parce que plus on réussit à relier la fonction à la personnalité, au caractère, au système de valeurs, au sentiment de liberté, mais de liberté avec Dieu, et plus on devient prophète, et plus on comprend et on relie la pensée à l'action. Le but, si vous voulez, des forces du mal, c'est se déconnecter, c'est de déconnecter l'extériorité qui est liée directement au mispar, au nombre, de l'intériorité qui est liée au nom. Toute la sortie d'Égypte est reliée directement au nom des tribus d'Israël. C'est-à-dire que l'Égypte a pour faculté, a pour force de pénétrer par l'assimilation dans l'être et de dissocier, de séparer la personnalité de la fonction. On ne sait plus où on en est. On s'assimile, on utilise et on vit avec les forces des nations, des autres, et on s'y plaît, parce que évidemment les forces sont toutes viennent d'Elohim, elles sont très belles, elles sont très bonnes, aller en vacances aujourd'hui c'est très intéressant, gagner beaucoup d'argent c'est très intéressant, aller prendre un bon vin dans un bon café c'est très très intéressant, mais Dieu dit attention à l'assimilation. Est-ce que c'est toi véritablement ça? Parce que la galoute, l'Égypte, va créer à l'intérieur de soi-même une force externe avec une personnalité qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. On va devenir, si vous voulez, une sorte de clown, d'acteur d'une vie qui est pour nous factice, superficielle, qui n'a pas de rapport avec notre lien intérieur, avec notre vérité intérieure, qui n'a pas de rapport avec notre personnalité, parce qu'on est de moins en moins fidèle à nos pères. Et seulement ceux qui ont été sauvés, en fait, dit Rashi, un cinquième à l'époque de Moshe, ce sont ceux qui avaient la capacité de réunir par leur nom leur personnalité et leur fidélité à leur père, Abraham, Israël et Yaakov. Alors, c'est ça l'enjeu, si vous voulez, du deuxième livre de la Torah. Sortir d'Égypte, c'est non seulement relier l'extériorité, le mispar, et l'intériorité, le nom, mais aussi, et je le dis même surtout, être en position d'écoute d'une voix, celle de Moshe, celle de Moïse. Moïse, on le verra, Bizrat Hashem, est un être, si vous voulez, unique, guide, envoyé évidemment par Dieu, le maître de l'histoire, qui va vivre dans le monde d'Elohim et qui va faire le lien entre Dieu et Elohim. Moïse, c'est notre maître. Moïse est notre guide. Moïse, c'est le seul qui est capable de nous enseigner la Torah. Et à la fin des temps de l'histoire, Moïse reviendra évidemment avec sa femme, Tsipora, et va être capable, grâce à Dieu, sous les ordres de Dieu, de nous dévoiler la Torah de la délivrance. Moïse, c'est le seul qui est capable, parce que c'est le seul qui est fidèle. C'est le fidèle parmi les fidèles. Moïse arrive toujours en période, si vous voulez, extrêmement obscure, extrêmement dangereuse pour le peuple d'Israël et pour le monde. Et comme aujourd'hui, nous sommes à la veille de la révélation d'un Moïse, évidemment, en Eretz Israël. N'oublions pas que Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël. Il rentrera à notre génération, Bezrat Hashem, à la fin des temps de l'histoire. Et quel est le but de Moïse? C'est de réunir le nombre et les noms, de manière à ce que chacun puisse devenir son propre prophète. Devenir son propre prophète, c'est d'abord et avant tout dévoiler sa propre vérité. Chacun d'entre nous fait partie d'une quantité. 600 000 êtres qui sont sortis d'Égypte, plus femmes, enfants, etc. C'est-à-dire 600 000 êtres prêts à se battre. Mais, à l'intérieur de ces 600 000, vous avez une infinité de fonctions, de sous-fonctions et de sous-sous-fonctions qui doivent être réalisées dans ce monde. Les 600 000, voyez, ce chiffre-là, cette statistique, elle est froide. Mais lorsqu'elle est reliée à la fonction, elle devient source de vie. C'est pour ça que ils marchaient même nos ennemis, c'est pour ça que les nazis ont tout fait pour nous dépersonnaliser, ont tout fait pour nous rendre un chiffre et certainement pas un nom. Ils ont tout fait pour nous séparer de nos pères, de notre fidélité à notre Dieu. Ils ont tout fait pour nous rendre une chose et non pas un homme. Un homme est par définition un être capable d'unité, extérieure et intérieure. Merci beaucoup.